Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles. Nous sommes le mercredi 26 mars 2025 et nous sommes en direct de 19h à 20h. Vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion demain jeudi 27 mars de 9h à 10h ainsi que sur Spotify lorsque vous écoutez la Forêt des Possibles. Saison après saison, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille, ses alentours et aujourd'hui même un peu ailleurs. Issus de tous les horizons et de tous les secteurs, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leurs engagements et leurs projets, nous tissons les liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés, mais ensemble, ils forment une grande forêt qui, chaque jour, s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de la Forêt des Possibles est une grande invitation. Oui, nous pensons que vous aussi avez votre juste place à prendre du moi au nous et du nous au tout dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. À ce micro, nos invités témoignent qu'il est possible de faire pousser collectivement le monde de demain. Je m'appelle Marin Moffret et suis accompagné ce soir d'Elissa. Bonsoir Elissa.
Bonsoir à tous.
Et de Félix en studio.
Bonsoir tout le monde.
Et ce soir, nous recevons Philippe Lévêque. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Marin, bonsoir Marseille et sa région.
Et bah, je suis ravi, nous sommes ravis de te recevoir. Philippe, tu es l'auteur du guide Éco-Frugal, nous allons en parler ce soir, qui est à la fois donc un guide que l'on peut retrouver et qui va bientôt être réédité, mais il y a aussi des ateliers qui sont autour de ce guide et qui nous invitent à avoir un mode de vie frugal. Tout ça, on va pouvoir en parler ce soir. Mais avant de parler du guide, avant de parler des ateliers, avant de parler de ce que c'est que la frugalité et de l'intérêt que l'on a à mettre tout cela en place dans notre vie, eh bien, on aimerait bien savoir un peu qui tu es. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien proposer en début d'émission, c'est de pouvoir s'identifier ou pas à des parcours et se dire « Ah oui, moi aussi, je suis passé par là » ou « Moi, pas du tout », mais c'est étonnant que cette personne soit posée autant de questions. Et donc, je vais te laisser la parole pour présenter un peu quel a été ton parcours et ce qui t'a amené à un moment à t'intéresser à cette question de la frugalité.
Alors, vaste question. Je vais commencer tout simplement par ma date de naissance, 74. J'ai 50 ans depuis récemment. Au passage, la population de la planète a doublé, on était 4 milliards, on est à présent 8 milliards. Et pour faire court à ce stade, donc, j'ai eu la grande chance de passer mon enfance en Afrique, de l'âge de 3 à 12 ans. Ça m'a appris énormément de choses, ça m'a apporté un regard sur le monde, une curiosité. Et puis je suis rentré en France avec ma famille, j'ai fait des études de droit. J'ai travaillé 12 ans dans la finance et j'ai bifurqué il y a 13 ans voilà, pour me consacrer à ma passion qui est l'écologie et plus exactement la frugalité.
Alors ça, c'est une description assez factuelle et je te remercie pour la concision de la réponse. Mais j'imagine que tu as vécu dans des mondes qui sont extrêmement différents que la confrontation de ces valeurs, de ces ressources... À un moment, t'ont questionné de se dire « Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. »
Complètement, parce que quand tu es enfant ou tu grandis en Afrique, il y a des écarts de richesse énormes. Hein. En tant que blanc, t'es privilégié. Et il y a autre chose, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage en Afrique. Du moins, il n'y en avait pas dans les années 80. Et tu rentres en France et tu vois en fait ce gaspillage éhonté, cette gabégie, et tu te dis « Mais comment c'est possible alors qu'il y a des gens qui n'ont pas assez ?» Et donc ça m'amène à cette citation de Mère Teresa que j'aime beaucoup, qui disait la chose suivante: « Ce qui me choque, ce n'est pas qu'il y ait des riches ou des pauvres, c'est le gaspillage. » Et en fait, ça a été vraiment mon constat. Je me suis dit « Mais comment c'est possible ?» Parce que les riches et les pauvres, moi, il y avait des écarts de richesse, on est dedans, on est dans le bain, on ne va pas forcément les remarquer, mais on rentre en Europe. Et là, on voit tout d'un coup toutes ces poubelles pleines. Et on se dit « Comment c'est possible ?» Et en fait, aujourd'hui, encore aujourd'hui, Quand je viens là au studio, par exemple, je vois des poubelles pleines qui débordent. Je me dis, mais comment c'est possible? Comment une société peut continuer à fonctionner de cette manière, sachant que certains n'ont pas assez, mais surtout que ça se fait au détriment de notre avenir. Ce que l'on consomme le plus, cette fois, c'est pas une citation, une boutade, c'est notre avenir. Donc, la frugalité, c'est inscrire en fait l'objectif, mettre au cœur de nos vies. Pourquoi? Parce que la frugalité, c'est à la fois faire le distinguo entre le superficiel et l'essentiel, entre les besoins et les désirs. Et puis, c'est aussi un mode de vie qui apporte énormément de satisfaction, parce que c'est aussi la frugalité, ça renvoie à Épicure. Ce sont les traditions de sagesse, de modération, de tempérance, au passage qu'on retrouve dans toutes les grandes religions. Et donc, c'est aussi pour soi. C'est une quête du bonheur, et je pense que la quête du bonheur est facilitée par la frugalité. Et puis aussi, c'est aussi pour être en ligne avec, comme on dit maintenant, les limites planétaires, pour essayer de résoudre les enjeux environnementaux qui sont les nôtres, crise climatique, mais surtout aussi effondrement de la biodiversité.
Alors, j'aimerais toujours continuer à aborder une question sur ton parcours, mais là, tu as employé le mot frugalité à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux nous en donner une définition très simple?
Ah, écoute, je vais faire très simple. La frugalité, c'est la satisfaction de ses besoins avec une économie de moyens. Ça ne veut pas dire renoncer au plaisir, ça veut dire apprendre à faire la distinction entre le superficiel et l'essentiel. Et ça, c'est très important, parce qu'à partir de là, bah, en fait, c'est plus facile de faire des choix dans son quotidien. Et je distingue entre besoins et désirs. Les désirs, on sait que par nature, ils sont fugaces. Dès qu'ils sont satisfaits, en fait, d'autres vont apparaître. Et les besoins, ben en fait, ça répond à des aspirations profondes, ça nous apporte des choses, et c'est plus de satisfaction, voilà, pour donner une définition très simple.
Oui, ce n'est pas subi.
Ce n'est pas subi. Voilà, la frugalité, ce qui est intéressant dans la démarche de frugalité, alors je voudrais pas l'opposer à sobriété, ce genre ou d'autres concepts, mais dans la frugalité, il y a vraiment l'idée en fait d'embrasser en fait de manière volontaire un mode de vie qui est moins consommateur de ressources, qui est plus simple. Ouais.
Alors, on va revenir sur ça un peu plus tard, mais j'aimerais pouvoir continuer à travailler un peu avec toi la question de ton parcours. Quand on a préparé l'émission et que je t'ai demandé qu'est-ce qui avait fait que tu avais basculé, tu m'as parlé d'une approche multifactorielle avec la quête de sens, et tu m'as aussi parlé de ta lecture de tes années passées dans la finance, avec notamment le fait d'avoir vu deux côtés. Un côté autour d'une finance qui s'oriente ou qui chercherait à s'orienter vers le développement durable, et de l'autre avec ses aspects plus toxiques. Le fait que tu t'étais dit que c'est pas là que tu avais l'impression que tu arriverais à changer les choses. Je te laisse pouvoir commenter.
Alors, j'ai travaillé dans la finance. On peut se dire, ça peut être bizarre avec ce que je viens de vous dire, mais en fait, il faut se remettre dans le contexte. C'était fin des années 90. Souvent, quand on était diplômé, en fait, c'était un peu un parcours assez prestigieux. Et puis aussi, moi, j'avais une grande curiosité par rapport au monde de la finance, parce que ma famille ne vient pas de ce milieu-là, et pas plutôt du côté du service public. Et donc, j'étais très curieux de comprendre comment fonctionne la salle des machines du capitalisme. Et donc, ça a été extrêmement intéressant. J'ai appris énormément de choses. L'argent est le nerf de la guerre. Ça, c'est d'une banalité, mais ça m'a permis de confirmer cet adage. Et je me suis aperçu que voilà, l'argent est capable du meilleur comme du pire. L'argent est relativement neutre, amoral. Et moi, au sein de la finance, je travaillais dans une banque américaine. Je me suis spécialisé un peu sur les sujets de transition énergétique, conseiller des fonds d'investissement sur les énergies renouvelables. Donc, j'ai essayé un peu de donner du sens, de flécher l'argent vers les solutions. Mais ça ne m'a pas suffi. À un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour accélérer, pour embarquer, pour donner envie à mes collègues, mais aussi à ma famille, à des inconnus, de s'embarquer sur le chemin de la transition écologique. Et c'est comme ça, en fait, de fil en aiguille, que j'ai eu l'envie d'écrire un livre. Je me suis dit, pour embarquer les gens, en fait, parler des problèmes, ça ne suffit pas. Tous les jours, il y a des chiffres plus effrayants qui tombent, ça ne change rien. Par contre, j'ai essayé d'avoir une approche positive, de parler des solutions, de faire la pédagogie des solutions, de leur montrer en quoi c'est intéressant pour eux de s'engager sur le chemin de la transition écologique. S'engager pour des questions économiques, parce que clairement, contrairement aux idées reçues, quand on réduit son impact environnemental, on fait plus d'économies. Certes, il y a des investissements, mais au global, on fait des économies, mais aussi pour une question de santé, pour une question de lien social, pour une question d'estime de soi. Quand on apprend à réparer des objets, on se réapproprie un peu le cours des choses. Souvent, aujourd'hui, on vit dans une société où c'est vrai assez assez marchandisé. Donc, dès qu'on a besoin de quelque chose, il faut payer. Et du coup, ça nourrit une anxiété parce qu'on se dit, si on n'a plus d'argent, bah, en fait, on n'est plus capable de rien faire. Et donc, de s'apercevoir qu'on peut faire des choses, de réparer des objets, d'acheter d'occasion, enfin, toutes ces solutions-là qui sont éco-friables participent à une forme d'émancipation.
Alors, je me permets une question parce qu'on a en face de nous le livre que tu as écrit, qui fait plusieurs centaines de pages, où il y a plein de fiches différentes sur des thématiques hyper variées. Et je me demande du coup, comment est-ce que tu as réussi à collecter toutes ces informations et tous ces conseils que tu peux ensuite prodiguer et partager à tous?
Alors, ça a été un long chemin. Il y a eu un déclic, en fait, je le raconte à chaque fois, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. J'étais gros consommateur d'eau gazeuse et j'ai découvert la fontaine à eau gazeuse. Et là, je me suis dit, mais voilà une solution qui coche toutes les cases. C'est économique, c'est écologique, c'est un gain en termes de confort, plus besoin de transporter les packs de bouteilles. Et quand bien même je recyclais mon plastique, hein, ça faisait 13 kg de plastique par an, j'avais calculé, mais là, c'était avec la fontaine à eau gazeuse, c'est du circuit court, c'est des économies. Et là, je me suis dit, mais voilà ce qu'il faut chercher. Je vais chercher des solutions qui sont du même ordre, qui sont de cet ordre-là, qui cochent les cases, qui sont à la fois bonnes pour le porte-monnaie, un gain en termes de confort, bonnes pour la planète. Et c'est comme ça que pendant 3 ans, ça remonte à 2009-2012, pendant 3 ans, je me suis mis à rechercher ces solutions. J'avais créé un blog qui s'appelait ecofrugalproject.org pour en fait aller rechercher des témoignages. Et je me suis nourri, je suis allé à la rencontre des associations, des consommateurs, et pendant 3 ans, j'ai écrit ce livre qui couvre en fait tous les sujets, aussi bien alimentation, transport, loisirs, habitat, et
il y en a plein, attends. Et je vais pouvoir lire ce que tu as toi-même écrit. Il y a sur l'alimentation, la consommation, l'énergie, la famille, la finance, l'habillement, l'habitat, le loisir, la santé, la technologie, les transports et le travail, à chaque fois avec entre, on va dire, 5 et une petite dizaine de propositions sur des enjeux qui sont extrêmement concrets. C'est le guide du routard de la frugalité, avec énormément de propositions extrêmement, on va dire, immédiates, quoi.
Ouais, en fait, l'idée, c'est que bah, tu lis le guide et que derrière, tu te dis, ah bah, je peux le mettre en place. En fait, chacun va... la transition écologique, en fait, c'est un voyage. C'est un voyage. La destination, on ne connaît pas vraiment la destination parce qu'on ne sait pas si on va y arriver. Moi, ma conviction, c'est que ce voyage, il est plaisant. Donc, mettons-nous en route. Et pour se mettre en route, chacun avance à sa manière, à son rythme. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai commencé ce voyage il y a une douzaine d'années. Et encore maintenant, je me surprends quand je découvre des nouvelles pratiques. En fait, ça apporte énormément de satisfaction. Dernier exemple en date, mon lave-vaisselle était en fin de vie. J'ai racheté mon lave-vaisselle d'occasion chez Emmaüs. J'ai fait les branchements moi-même. Et c'est énormément de satisfaction. On sait que son argent va dans l'économie sociale et solidaire, que ce sont des déchets en moins. Et voilà, ça coche toutes les cases.
Je voudrais revenir, alors c'est vraiment pas une question piège, c'est une question que je me suis posée parce que pour revenir à l'eau gazeuse qui était ton déclic et cette machine qui convient à énormément de monde aujourd'hui et qui est vraiment très pratique, pour citer la marque SodaStream, pour le coup, si je ne m'abuse, c'est un produit israélien. Est-ce que tu as une alternative, toi, à cette marque-là? Et est-ce que c'est un des paramètres qu'on inclut aussi, le côté un peu politique? Et bon, bah, ça fluctue quoi, au fil des ans, au fil des décennies. Est-ce que c'est un des critères de sélection, on va dire?
Alors, c'est plus un produit israélien. En fait, ça appartient à Pepsi. Voilà. Pepsi, ils sont intelligents. D'ailleurs, j'avais fait une conférence chez eux il y a une dizaine d'années. Je leur avais dit, mais vous, votre métier, c'est pas de vendre du plastique, c'est d'assouvir la soif. Et depuis, ils ont racheté SodaStream. Alors, c'est pas grâce à moi. Ils ont racheté SodaStream. Donc, SodaStream, maintenant, est américain. Voilà. Après, cocher toutes les cases, pour moi, cocher les cases, ça veut dire un produit qui permet de réduire son impact, qui permet d'avoir des bénéfices pour soi. Et après, si chacun veut rajouter une grille supplémentaire, une grille politique, libre à lui. Voilà. Mais l'important, c'est de prendre ses décisions en connaissance de cause. Et c'est pour ça qu'être informé, savoir d'où vient un produit, par qui il est fait, comment il est fait, c'est important.
Et alors, j'aimerais qu'on puisse présenter effectivement ce qu'il y a dans ce guide et dans les ateliers, mais rien de mieux qu'un exemple. Et donc, ce que je te propose, Philippe, c'est que je suis un père de famille, j'ai 2 enfants, je suis marié, j'habite à Château-Gombert. Château-Gombert, c'est dans le 14e arrondissement à Marseille, c'est dans les collines. On a 2 voitures, une pour ma femme et une pour moi. On a une maison, une sorte de petit pavillon où si j'ai envie d'aller faire mes courses, je dois prendre ma voiture. Et je prends ma voiture pour faire à peu près toute forme de course, que ça soit pour manger, mais aussi pour l'électroménager. Souvent, je vais dans un centre, dans un grand supermarché qui s'appelle le Merlan. Et en fait, vous m'emmerdez avec vos trucs écolo là. Moi, ma voiture, j'ai pas le choix. Et sinon, je travaille dans la tour de la Marseillaise. Donc, pareil, je prends ma voiture. Et le week-end, vraiment, j'aime pouvoir partir loin en week-end, me faire plaisir, parce que cette vie est parfois assez laborieuse, au sens vraiment de ça me demande beaucoup d'énergie de le faire. Et mon frigo vient de planter.
Ok, bon, écoute, il y a énormément de choses à faire, mais encore une fois, on va avancer à son rythme et à sa manière, surtout à la manière de cette famille. Ce qui est important, c'est qu'elle fasse des choix qui lui apportent des satisfactions. Bah, pour commencer, en fait, deux voitures, c'est cher, c'est un budget. Juste par rapport au guide éco-frugal, le constat, c'était en 2012, une famille en fait pouvait faire 5000 euros d'économies récurrentes par an. Là, je suis en train de travailler sur la nouvelle édition, c'est probablement plus 5000, c'est 6000 euros. Donc pourquoi je commence par la voiture? Le budget de l'automobiliste en France, c'est 6 000 euros par an. C'est 6 000 euros, c'est le prix d'une voiture. Ça comprend l'amortissement, ça comprend le carburant, le stationnement, l'entretien, ce genre de choses. Donc tu vois bien qu'avec ce budget, tu peux, ce père de famille peut se permettre de vendre la seconde voiture et d'acheter un vélo cargo pour emmener directement ses enfants à l'école le matin. Ce sera moins galère. Pourquoi ? Parce qu'il polluera moins l'école en étant en stationnement double fil, il sera moins stressé, ses enfants, il passera plus de temps avec ses enfants. Et il pourra enchaîner ensuite, aller directement à la Marseillaise avec son vélo cargo électrique. Voilà. Donc là, il fait des économies. Le vélo cargo, on va dire, il l'achète d'occasion, il va le trouver peut-être à 2500 euros. Certes, c'est un budget, mais quand tu compares ça à son budget voiture, eh ben, en fait, les économies, elles sont vite là. Donc ça, c'est un gain économique, c'est un gain en termes de qualité de vie. Il passe plus de temps avec ses enfants. Voilà un premier exemple pour la partie transport. Pour la partie habitat, tu m'as dit qu'ils habitaient une maison. Aujourd'hui, allez, j'ose le dire, c'est une honte qu'à Marseille, tous les toits ne soient pas solaires. Marseille pourrait presque être autosuffisant, en journée en tout cas, en électricité renouvelable. Et il n'y a pas beaucoup de toits solaires à Marseille. Et pourtant, le taux de retour sur investissement... Là, je viens de le mettre à jour, c'est 9 ans. 9 ans, sachant qu'un panneau solaire, ça dure 25 ans, voire 30 ans. Donc là, je te donne l'exemple de cette famille. Elle met 20 mètres carrés de panneaux solaires. Elle va économiser à peu près... Il y a une partie de l'électricité qu'elle va revendre, l'autre qu'elle va autoconsommer. Elle va faire à peu près 500 euros, 600 euros d'économie récurrente par an. L'installation de panneaux solaires, 7500 euros, sera remboursée au bout de 9 ans. Après 9 ans, en fait, ben, toute son électricité, ce sera que du bonus. Voilà. Donc là, c'est potentiellement des milliers d'euros d'économie. Ensuite, tu me disais que le frigo était en fin de vie. Et ben, le réflexe, c'est, j'ai cité tout à l'heure Emmaüs, je crois que le réseau Envie est présent aussi à Marseille, c'est d'aller chez Envie. Les meubles blancs, ils ont des garanties d'un an et vous allez trouver des meubles blancs, enfin autrement dit l'électroménager, à un tiers du prix avec une garantie. Livré avec une livraison aussi, c'était pour moi quand j'ai acheté chez Emmaüs, c'était le cas. Et en faisant ça, ben, vous participez directement à l'économie sociale et solidaire et surtout à une économie locale, puisqu'en fait, Emmaüs ou Envie, localement, font travailler des gens qui sont en réinsertion. Donc en fait, c'est triplement vertueux, c'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour la planète et c'est bon pour le social.
Et pour les courses du quotidien ?
Et pour les courses du quotidien, alors je sais où est-ce qu'ils habitent ?
Château-Gombert.
Alors après, on en reparlera parce qu'en fait, il y a un moyen d'avoir des conseils très personnalisés. On parlera des ateliers après. Donc, je ne connais pas Château-Gombert, mais ce que je peux dire, c'est que probablement autour d'eux, ils ont peut-être un marché. Ils ont probablement des circuits courts, des AMAP. S'ils n'ont pas des AMAP, aujourd'hui, il y a des sites comme La Fourche, comme Bonéo, qui permettent voilà, de se faire livrer des paniers de fruits et légumes, voire des fruits moches qui sont moins chers. Donc, il y a pas mal d'alternatives. J'aurais envie de dire que la principale difficulté, comme à chaque fois qu'on doit changer de comportement, c'est pas tant de trouver la solution, c'est d'arriver à dépasser l'inertie du quotidien. Si on a toujours fait ses courses au supermarché, bah, qu'est-ce qui fait qu'un jour on va aller ailleurs? Et ben, peut-être que c'est parce qu'un collègue, un voisin va vous informer qu'il fait partie de telle AMAP, qu'il est très content, que ça va vous donner envie de tenter l'expérience. Donc il y a énormément de solutions. Et autre chose aussi par rapport à l'intérieur de la maison, c'est systématiquement avoir le réflexe de rien acheter de neuf, systématiquement d'occasion. Voilà, il y a un défi qui s'appelle le défi rien de neuf qui avait été lancé par Zero Waste France. Et aujourd'hui, il y a une telle offre aujourd'hui d'occasion qu'on peut parfaitement vivre au quotidien sans jamais rien acheter de neuf.
Je peux témoigner du fait d'avoir meublé mon appartement en arrivant à Marseille 100%, que ce soit des choses que j'ai trouvées dans la rue littéralement, soit en allant énormément sur le Bon Coin. Bon, après, pour ce qui concerne typiquement les poêles et enfin, je me suis acheté des poêles neuves, je dois dire la vérité. Surtout après avoir acheté, par exemple, une première bouilloire en plastique, en me disant « qu'est-ce que j'ai fait d'acheter un truc comme ça ?» Mais plutôt d'acheter des trucs en inox, pour la santé, pour le coup. Mais on peut trouver, et puis surtout, on peut trouver des pépites à trois fois rien, quoi. C'est-à-dire des super lampadaires à 20 euros, mais on se dit, le lampadaire, on trouve le même dans un supermarché, enfin dans un magasin, il coûte 100, 150, peut-être même plus.
Complètement. Il y a énormément de solutions. Au passage, ces solutions, ben en fait, toi, tu étais à Marseille, tu t'achètes sur le Bon Coin, tu vas rencontrer quelqu'un qui peut te donner d'autres conseils. Donc, en fait, c'est aussi riche de liens sociaux. Et donc, cette démarche d'achat d'occasion, aujourd'hui, en plus, avec les sites, pas seulement achat d'occasion, les sites de dons comme Give, par exemple, il y a une offre vraiment très très importante. Donc c'est facile aujourd'hui de vivre uniquement en achetant de la seconde main, je ne parle même pas de Vinted pour les fringues. Donc voilà, ce sont des modes de vie qui apportent énormément de satisfaction et qui ne sont pas compliqués à adopter. Puis après on peut aller plus loin, on peut monter en complexité, et ça en fait on avance au fil de l'eau, à son rythme, à sa manière. Faut pas se culpabiliser, mais ce qui est intéressant dans tous les gens qui sont dans des démarches comme ça de réduction d'impact, de transition écologique, c'est qu'il y a un effet cliqué. Si vous vous mettez au vélo à Marseille, deux choses une, soit au bout d'une semaine vous arrêtez parce que vous dites c'est pas possible, c'est trop dangereux, soit vous allez probablement faire du vélo à Marseille pour le reste de votre vie. Et donc cet effet cliqué, c'est le meilleur témoignage, c'est-à-dire que les gens qui sont en transition écologique ne reviennent pas en arrière. Ça veut bien dire que le mode de vie ensuite qui leur convient, et que ça leur apporte des satisfactions. Et derrière, il y a l'idée de bonheur. Et je pense qu'il faut insister là-dessus. Toutes les publicités, systématiquement, en filigrane, il y a l'idée de bonheur. On parlait de la voiture. On voit des publicités où les gens sont tout seuls dans leur voiture. On a l'impression que la voiture, en fait, ils l'utilisent par temps de Covid. Quand on y pense, c'est totalement ahurissant. Ils sont heureux dans leur voiture. Sauf que, et on nous vend le bonheur. On nous vend le bonheur. Une situation qui est totalement irréaliste, encore une fois. C'est comme s'ils étaient tout seuls sur la route. Alors souvent ça en ville, il n'y a pas du tout de circulation, ou alors c'est une nature intacte, merveilleuse. Et cette promesse de bonheur est totalement fallacieuse. Et pourtant la transition écologique, la promesse de bonheur, elle est là. Et on n'ose pas l'assumer. On n'ose pas l'assumer, je ne sais pas pourquoi on ne le dit pas suffisamment, mais il faut oser le dire. Je pense que ça rend heureux, en tout cas ça y participe. Et il faut insister là-dessus parce qu'on vit aussi une époque aujourd'hui multicrise, il y a énormément d'anxiété, il y a énormément de souffrance, et je pense que ça fait partie de la solution, la transition écologique, pas seulement pour la planète, pour soi, et aussi la transition écologique, on va en parler, mais c'est une démarche collective. Alors que la consommation par nature est individualiste, la transition par nature, elle est collective. Et ça tombe bien parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de créer du lien et d'interagir avec autrui, et pour les raisons que vous connaissez, voilà, les écrans numériques.
Alors la partie collective vraiment d'une grande organisation quasi politique au sens noble du mot politique, on en parlera un peu plus tard dans la partie du tout, mais il y a aussi tout à fait de manière plus pratique les parties collectives de tes ateliers, Philippe, qui sont, enfin que je vais te laisser présenter, mais que tu peux proposer à la fois pour des particuliers mais aussi pour des entreprises, et qui ont cette vocation de créer du collectif au-delà simplement d'apprendre des bonnes pratiques. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus longuement sur la manière dont ça se passe?
Avec plaisir. Donc on revient un peu en arrière. En fait, 2012, mon livre, je le sors en auto-édition, je quitte la banque et je me lance avec un livre. Voilà. Je pars faire un tour de France pour aller à la rencontre des futurs lecteurs. Et de fil en aiguille, en fait, il y a trois étapes. Il y a le guide éco-frugal. Ensuite, je vais créer des rencontres éco-frugales. J'allais à domicile, les gens invitaient des amis, des voisins. Et en fait, j'étais là pour parler des solutions et puis autour d'un apéro hyper convivial. Et puis, je vendais quelques livres. Donc, il y avait un petit modèle économique Mais ça ne me permettait pas de vivre, j'en ai 2-3 livres. Mais par contre, j'avais constaté que ce format-là était très efficace. En fait, quand vous arrivez chez des gens et qu'ils invitent des amis, des voisins autour d'un apéro et qu'on parle de solutions, on ne parle pas des problèmes, les problèmes, on les connaît, on parle des solutions. En fait, il y a vraiment une logique positive. On ne rentre pas dans des débats qui vont polariser tout le monde. On parle de ce qu'on fait, de ce qui nous apporte des satisfactions au quotidien. Et c'est très jovial. Ça marchait très bien. À tel point que j'étais presque un prétexte parce que je commençais à parler des solutions. Et très vite, les gens disaient, moi, je fais ci, je fais ça. Pour réduire le gaspillage alimentaire, j'achète chez tel des stockeurs. Pour acheter des fruits et légumes des saisons, j'achète à tel endroit. Et donc, je me suis dit, ce format marche très, très bien. Il n'y a pas de modèle économique, mais c'est dommage de l'abandonner. Et donc, des rencontres éco-frugales, j'ai créé un format qui s'appelle mon atelier éco-frugal qui permet à chacun d'organiser ses moments de partage de solutions. C'est un format en fait qui prend une heure, multi-thématique. On a commencé avec le zéro déchet, mais aujourd'hui on propose 8 thématiques, zéro déchet historiquement, et ensuite mobilité, énergie, eau, numérique, biodiversité. Et ce sont des parcours en fait, donc des kits d'animation que les gens vont télécharger sur monatelier-ecofrugal.fr qui vont leur permettre d'organiser un moment de partage de bonnes pratiques, de savoir-faire avec leurs voisins, mais aussi avec leurs collègues, avec leurs membres associatifs. Et l'idée en fait, c'est plutôt que de découvrir les solutions dans un livre, parce que découvrir les solutions dans un livre, c'est bien, mais encore faut-il avoir le livre en main, encore faut-il l'acheter. Et surtout, on sait que les gens lisent de moins en moins. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand la solution, elle vient de votre voisin, de votre meilleur ami, de votre collègue de travail, c'est beaucoup plus impactant. Et aujourd'hui, tout le monde nous parle d'IA. Le technosolutionnisme, on sait très bien que ça nous mène dans le mur, mais non, le fait est qu'on ne parle que d'IA. Et bien, si on prend l'exemple d'IA, il y a Amazon qui était un des tout premiers sites à faire de l'IA, à utiliser son algorithme pour faire des recommandations de lecture. Eh bien, Marin, je te fais le pari que si demain ton meilleur ami te recommande un livre, eh bien, c'est bien plus efficace que l'algorithme d'Amazon, quand bien même Amazon, bon, je pense que tu ne commandes pas sur Amazon, mais si Amazon a analysé toutes tes lectures et est capable de te faire les recommandations, eh bien, la recommandation de tes amis, de tes voisins est plus impactante. Eh bien, pourquoi je vous dis ça? C'est que dans la conduite du changement, il ne faut pas oublier que ce sont nous les humains qui sont les plus puissants, les plus efficaces pour donner envie à d'autres humains de changer. Ce n'est pas l'IA, ce n'est pas la technologie. Il faut remettre l'humain au centre, à la fois pour créer du collectif, mais aussi parce que dans la transition écologique, c'est l'humain qui est le mieux à même, qui est le plus capable de donner envie à d'autres humains de changer de comportement, d'adopter des nouvelles pratiques.
Et alors l'humain, il a aussi quelque chose d'assez fascinant, c'est ce qui va concerner le mimétisme social. Et donc il y a le mimétisme social en tant que tel sur les solutions, mais il y a aussi un mimétisme social sur une sorte de validation du oui, ce que tu fais a une valeur parce que tu arrives à trouver un modèle économique ou pas. Et ça, je sais que c'était un élément que tu avais envie qu'on puisse aborder ensemble.
Complètement.
Qui était celui d'ateliers qui ont leur modèle, qui te permettent 13 ans après, enfin même 15 ans après 2009, 16 ans, fou, oh là là, de pouvoir continuer à porter la mission.
Ouais. Alors en fait là ça va être l'occasion de parler un peu de mon parcours d'entrepreneur social. Quand j'ai lancé Ecofrugal, j'avais juste un livre, voilà, ça a commencé comme ça. J'avais créé une entreprise lambda, voilà, je savais pas vraiment ce que j'allais faire avec ce livre à part le vendre. Et puis de fil en aiguille en fait l'idée de mon atelier Ecofrugal est apparue. Et donc là je me suis dit c'est gratuit hein, puisque le site internet permet aux gens de s'inscrire, de télécharger kits d'animation, même de recevoir gratuitement des box d'animation. Eh bien, j'ai trouvé des partenaires qui financent, en fait, qui cofinancent, qui permettent. Donc, il y a l'ADEME, que j'imagine les gens connaissent, l'Agence de la transition écologique, mais aussi des partenaires privés, comme Valdélia, qui est un éco-organisme, la région Île-de-France, qui m'a aidé également. Il y a Orange, avec qui on a co-créé des kits d'animation. Donc, on a trouvé un petit modèle économique où, en fait, ces partenaires sont affichés sur le site, voilà, c'est transparent, et ils expliquent pourquoi ils soutiennent Ecofrugal. Et la réponse est très simple, c'est que c'est une belle idée. Ça consiste à reconnaître que chacun potentiellement est porteur et porteuse de solutions et qu'on a envie d'accélérer la transition écologique en favorisant l'essaimage, le partage de la coopération. Donc ça, c'est le premier modèle économique. Et puis à côté de ça, les ateliers, en fait, on s'est aperçu rapidement qu'ils avaient lieu souvent entre collègues, entre midi et 2 heures au travail. Et donc là, on a créé une offre payante pour les entreprises. Quand vous allez sur mon atelier Ecofrugal, vous avez accès à un réseau social qui est France entière. Vous pouvez interagir avec tous les membres, comme un réseau social, mais un vrai réseau social. Je ne parle pas de Facebook, un réseau asocial. Alors, pour faire la différence, on va parler de réseau amical. Voilà. Sur Ecofrugal, c'est un réseau amical, on peut interagir avec les gens, et les entreprises peuvent avoir leur propre communauté enchâssés dans cette communauté de salariés engagés. Et donc ça, c'est une prestation qu'on va vendre aux entreprises et aux collectivités. Et puis on va vendre aussi des événements en entreprise et dans les collectivités, notamment l'atelier Cofrugal XXL, qui est en fait un atelier où on va avoir 50, 100, 200 salariés. Ça s'appelle « Partageons nos solutions pour la planète » et on va tous interagir et partager nos solutions avec la direction qui sera présente, qui va pouvoir constater que les collaborateurs ont tous des talents cachés dans ces domaines. Les collaborateurs vont pouvoir questionner l'entreprise en disant « Mais c'est quoi les objectifs RSE ?» L'entreprise va pouvoir expliquer ses objectifs RSE et donc ça va engager un grand dialogue qui permet en fait aux entreprises de se rendre compte que il y a des talents, il y a des envies et que ce serait dommage de ne pas capitaliser sur ces savoir-faire. Donc ça, c'est le modèle économique de l'entreprise. Et ce qui nous permet d'assurer en fait la gratuité en fait des ateliers, d'envoyer gratuitement ces box et de développer des outils sur la plateforme comme le calculateur carbone et d'autres outils qui sont à la libre disposition du public.
On voit que tu l'as énormément travaillé et surtout que tu as réussi à trouver en testant et
par tâtonnement. Ouais,
ouais, en tâtonnement pour voir un peu ce qui marche et comment tu arrives à trouver le modèle général. L'heure file à une vitesse absolument folle à t'écouter, ce qui est un plaisir en tant que intervieweur et aussi premier auditeur de cette émission, Philippe. Mais je vais te proposer que nous ayons un petit moment de respiration musicale et que tu nous présentes la musique que tu as décidé de nous faire écouter ce soir.
Oui, alors il s'agit de Johnny Clegg, une chanson de Johnny Clegg. Pourquoi Johnny Clegg? Déjà parce que c'est une chanson, alors elle date de 1982, mais je pense que les auditeurs, auditrices, même les plus jeunes, la connaissent. Très belle chanson. Et Johnny Clegg, pourquoi Johnny Clegg? Johnny Clegg est décédé en 2019. Il faut se rappeler qu'il avait un groupe en Afrique du Sud avec des chanteurs noirs à une époque où c'était l'apartheid. Et il a failli risquer sa vie parce que ça il représentait une menace. Et cette chanson, pour moi, en fait, c'est un souvenir d'enfance parce que c'est une chanson à succès, mais c'est aussi, ça me rappelle aussi l'enfance que j'ai passée en Afrique. Et c'est aussi un appel au respect, c'est un appel à la diversité. Et j'avais envie de la partager avec les auditeurs et les auditrices.
Merci beaucoup Philippe, on se retrouve juste après pour La Forêt des Possibles qui présente toujours le guide écofrugal. À tout de suite.
Scattering
Vous êtes de retour sur Radio Galère au 88.4. Nous écoutons toujours l'émission de La Forêt des Possibles et vous êtes toujours en direct à parler du guide écofrugal et des ateliers écofrugaux de Philippe Lévesque. Merci Philippe d'être avec nous ce soir. Et dans cette première partie d'émission, on a abordé la question de ton parcours et la question de ton projet. Et ensuite, dans cette deuxième partie, on ira sur la manière dont on peut transformer le monde à son échelle. Mais pendant la petite pause musicale, Elissa, tu avais une question qui est probablement une question que d'autres personnes peuvent se poser. Je te laisse la formuler.
Et oui, Philippe, tu nous parlais de ton modèle économique et puis tu utilisais le mot « on » comme si tu n'étais finalement pas tout seul derrière ce projet d'entreprise. Alors, qui est-ce qui t'accompagne ?
Alors, j'ai deux associés voilà, qui ne sont pas à plein temps. Il y en a un qui m'accompagne sur la partie un peu communication, marketing et l'autre sur le site. Parce que le site, j'encourage les auditeurs à aller sur le site. En fait, ce n'est pas juste un réseau amical. Il y a plein de fonctionnalités. On peut interagir, voir les gens près de chez soi, les contacter. On peut créer des événements. Au passage, ça permet de ne pas utiliser les plateformes commerciales que vous connaissez. En fait, on peut tout faire avec le site. Donc voilà, j'ai un associé qui s'occupe de ça. Mais ils ne sont pas à plein temps. Et puis, j'ai une stagiaire ou un stagiaire, voilà, le reste du temps. Mais surtout, écofrugal, je dis on, parce qu'en fait, il y a plus de 1000 ambassadeurs et ambassadrices. Donc, ambassadeurs et ambassadrices, ce sont les gens qui vont sur le site, qui disent « je veux organiser un atelier écofrugal ». Donc, ils ont le statut ambassadeur. Et puis aujourd'hui, il y a un peu plus de 10 000 personnes qui ont participé aux ateliers depuis 2018. Donc voilà, ça, c'est une communauté qui grandit au fil de l'eau. Je suis là, moi je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. En fait, chacun va avoir l'occasion de dire ce qu'il fait, d'infuser, d'hybrider, de polliniser. Donc c'est pour ça que je dis on. C'est que moi je crée des outils que les autres s'approprient, mais moi je ne fais pas grand chose directement.
J'ai envie d'utiliser l'imaginaire de la forêt des possibles.
Exactement.
Parce qu'on essaie de faire un peu ça.
On est complètement dans la forêt.
De la pollinisation, c'est effectivement quelque chose qui arrive. On a la première formation d'animateurs et d'animatrices. Alors, on n'est pas 1000, hein. On va avoir les 10 premiers qui arrivent ce week-end avec notamment Félix qui sera là.
Bravo.
Ça sera au QG des Éco-Acteurs à Marseille. Mais on va revenir à toi parce que c'est toi notre invité ce soir. Et merci Elissa pour cette question parce qu'effectivement, c'est hyper intéressant. En fait, tu as fait la fresque du climat bien avant la fresque du climat sur ce modèle-là. Il y avait deux sujets qu'on avait envie d'aborder ensemble sur la partie du tout. C'était l'un sur la question de l'adaptation et l'autre sur la question du rapport à l'argent. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on les prenne les uns après les autres dans le peu de temps qui nous advienne. D'abord, la question de l'adaptation. Si on sort de cette émission, il est possible que le public mainstream nous dise « Oui, regardez cette petite émission de Bobo Écolo, ils sont bien gentils, mais en fait, il y a quand même des priorités qui sont beaucoup plus importantes, ne serait-ce que quand on regarde un peu où sont fléchés les grands budgets pour ce début de l'année 2025. Il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, il n'y a plus d'argent pour la transition écologique, mais il y a massivement de l'argent sur la question de l'IA et massivement de l'argent sur la question du réarmement. On va même recevoir d'ici cet été un guide qui nous disent comment il faudrait réagir en cas d'attaque. Monsieur Emmanuel Macron, en fait, envoyait le guide écofrugal partout si jamais on venait à avoir des grandes cassures. Mais c'est plus un guide qui va nous inviter à s'inscrire dans des casernes pour aller éventuellement sur les fronts de l'Est si jamais un jour nous sommes appelés. Donc pourquoi je parle de tout ça, c'est qu'aujourd'hui dans l'actualité on pourrait considérer que c'est ça la priorité, alors qu'en réalité quand on connecte les sujets les uns avec les autres, on est sur la question d'adaptation par rapport à des chocs extérieurs, que ça soit des guerres, des bouleversements environnementaux, la biodiversité qui s'effondre, de l'eau qui peut être de moins en moins présente, et aussi de la question de la ressource. Fondamentalement, c'est ça qui est en train de se passer, c'est une contraction de l'accès à la ressource qui crée des très fortes tensions géopolitiques. On le voit avec les États-Unis qui ont envie de mettre la main mise sur le Groenland, sur le Canada, sur le canal de Panama ou encore sur les terres rares en Ukraine, en ayant bien compris que du fait que cette ressource soit contrainte, eh bien, c'est la course à y aller le plus vite possible. Et finalement, toi, ton guide, il est sur une manière de dire bah, cette ressource-là, avec celle qu'on a, on arrive à la trouver autrement, à l'utiliser d'une autre manière. Et donc, cette petite question, enfin, ceci n'était pas une question jusque-là. Ma question, elle est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ton guide ne soit pas perçu comme le guide du bobo, mais finalement comme le guide qu'on doit avoir tous les jours ?
Alors, écoute, cette réponse, je pense, c'est pas tant le guide que les ateliers. Aujourd'hui, les ateliers, on a des ateliers avec un peu tout type de public. Et donc, chacun, en fait, va pouvoir échanger sur des solutions qui correspondent à son environnement, à son milieu. Et donc ça, ça permet de faire tomber les a priori. Il peut y avoir un atelier éco-frugal dans, je sais pas, dans une entreprise où ça va être des cadres, ça va être plutôt bobo. Et puis comme c'est le cas à Marseille, il y a eu des ateliers dans les associations de quartier, dans les régies de quartier. Et donc en fait, ça va créer l'acceptabilité parce que tu parlais de mimétisme social. Et donc on est entre personnes. Ça ne va pas polariser, on peut dire qu'il y a une forme d'homogénéité. Donc, en fait, on peut atteindre tout public potentiellement parce que l'approche d'éco-frugal, c'est une approche non culpabilisatrice. L'idée, c'est que chacun puisse prendre des décisions mieux informées et qui lui apporte une satisfaction. Donc, on peut potentiellement toucher tout le monde. Bon, ça, c'est en théorie. Dans la pratique aujourd'hui, le public d'éco-frugal, je parlais de plus de 10 000 personnes, notre public est majoritairement féminin. Et ça, ça interroge. 80% d'ambassadrices. Quand je dis je devrais pas dire ambassadeur, par défaut je devrais dire ambassadrice. Et on s'aperçoit que les femmes ont plus de capacité, plus d'inclination à aller sur le terrain pour, dans une logique de coopération, essayer d'embrasser des nouvelles pratiques qui permettent de résoudre les défis de ce siècle. Parce que tu as mentionné effectivement la guerre, l'épuisement des ressources, mais tout ça est lié, hein, tout ça est imbriqué. Et donc quand on agit à son échelle pour plus de frugalité, eh bien, en fait, on construit une société plus résiliente. Je donne un exemple très simple. Je parlais de Marseille. Comment ça se fait qu'à Marseille, on ne soit pas autonome en énergie au moins durant la journée? On voit bien que demain, s'il y a des panneaux solaires qui sont installés partout à Marseille, demain, il y a un conflit, il y a une crise énergétique. En fait, tout ne va pas s'arrêter. Et donc, c'est la résilience. Donc, et en plus, au lieu d'acheter de l'énergie à l'étranger, ben, en fait, c'est bon pour la souveraineté française. Donc, en fait, il y a moyen d'aligner tout ça. Il ne faut pas opposer. Il y a moyen d'aligner tout ça. Et en fait, on est dans un monde complexe. Donc, ce n'est pas l'écologie d'un côté, la géopolitique de l'autre, la crise sanitaire, parce que de toute façon, tout ça, ça s'enchaîne comme un millefeuille. En fait, il faut voir comme l'écologie qui est un peu... C'est pas l'alpha et l'oméga, mais ça fait partie de tous les problèmes, ça fait partie de toutes les solutions.
Oui, et tu parlais de la question de la souveraineté. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une des solutions qui doit être pointée, de dire en fait, ceci participe à la souveraineté de l'État. Il y a quelques semaines, on a reçu une structure qui s'appelle l'Incassable, qui est financée par l'ADEME. L'Incassable, il récupère des verres, enfin des bouteilles de verre qui, au lieu d'être cassées, sont réutilisées. En fait, c'est des consignes. Et aujourd'hui, de manière absolument aberrante, eh bien, en fait, l'Incassable est financé par l'ADEME, sauf que l'ADEME est attaqué par l'extrême droite pour être, soi-disant, trop idéologique. Sauf que, quand on réfléchit à ça, le fait de soit reproduire toujours du verre, soit le fait de dire on va récupérer la même bouteille qu'on va utiliser 20 fois, ça a quoi comme incidence? C'est beaucoup moins d'utilisation d'eau, beaucoup moins d'utilisation d'énergie, création de postes qui ne peuvent pas être délocalisés. Et finalement, à l'arrivée, ça a une incidence directe sur la question de la souveraineté, si jamais on veut rester dans cette logique-là. C'est le fait de dire on participe sur un territoire à limiter les angles de vulnérabilité parce qu'on garde la ressource, on la réutilise, on crée des emplois, on fortifie le tissu social local et donc, à l'arrivée, on fortifie la souveraineté de ce territoire-là. Donc je trouve que c'est absolument aberrant le fait de dire oui, regardez-moi ces solutions qui sont des solutions idéologiques qui sont portées par l'ADEME, alors qu'en réalité elles participent simplement à ce que tu employais comme terme, la résilience d'un territoire pour pouvoir continuer à vivre dignement.
La résilience d'un territoire, la création d'emplois, encore une fois, à chaque fois que tu achètes d'occasion, bah, tu fais travailler l'économie sociale et solidaire. Donc tout ça, c'est des emplois qui sont créés en France, qui ne sont pas délocalisables. Et on emploie des gens qui sont, par ailleurs, qui ont du mal à trouver leur place sur le marché du travail. Donc c'est des emplois qui sont souvent faiblement qualifiés, mais qui ont le mérite d'exister, qui permettent aux gens de gagner leur vie dignement. Donc oui, il ne faut pas opposer. Encore une fois, il ne faut pas opposer. Et donc nous, quand on fait des ateliers, en fait, les gens sont libres. On a créé des parcours pour que les auditeurs et auditrices comprennent. En fait, ce sont des questions. Donc, par exemple, si vous faites l'atelier zéro déchet, une des questions, c'est j'achète d'occasion plutôt que neuf. Et donc, la question que vous allez poser au groupe, chacun, à tour de rôle, raconte les achats d'occasion qu'il a pu faire au cours des 6 derniers mois. Donc là, le déroulé est libre. Mais par contre, en préambule, nous, on a un petit texte très clair, très concis en disant « Vous n'êtes pas là pour lancer une polémique sur le nucléaire, sur ceci, sur cela. Pourquoi ? Parce que en fait, on va polariser, on va passer une heure sur le nucléaire, personne n'aura changé d'avis. Et à côté de ça, on sera passé à côté de dizaines de solutions. Et on aura échoué à créer du commun, à créer une dynamique de coopération d'entraide qui peut se prolonger bien après l'atelier. Donc en fait, nous, notre règle, c'est pas de débat. Les débats, il y a des endroits pour ça. Concentrons-nous sur les solutions. Le temps passe tellement vite, la preuve dans cette émission, on n'a pas le temps de développer toutes les solutions. Concentrons-nous sur ce que nous faisons à notre échelle. Et de cette manière, on est légitime. Donc ça m'amène sur un sujet qui est La communication non violente, vous avez peut-être entendu de parler de ce concept. La communication non violente, elle consiste à faire tomber les objections de la manière suivante. À pas dire on, à pas dire vous, nous, à dire je. Quand vous parlez de ce que vous faites, vous êtes légitime. En fait, on ne peut pas remettre en question. Bah, j'achète d'occasion. Bah, ok, t'achètes d'occasion. Si vous commencez à dire on et si vous commencez à parler au nom du groupe, ça devient compliqué. Donc nous, voilà, on a quelques règles simples. Pas de débat. Ça ne veut pas dire que les débats sont inintéressants, mais ils n'ont pas leur place dans les ateliers. Et on utilise le jeu. Et comme ça, on est légitime, on donne envie, on crée l'émulation.
Pas de débat. Et puis, tout à l'heure, enfin, quand on préparait l'émission aussi, tu me disais qu'il y avait d'autres angles qui pouvaient être apportés, notamment celui de la santé, celui de la préservation des paysages. Et donc, finalement, d'employer un vocabulaire qui puisse être parfois, ou un axe au-delà de la question du vocabulaire, qui puisse aussi aller vers ce qui nous touche plus directement.
Alors complètement, et là je reviens sur ce que tu disais, aujourd'hui on voit bien qu'il y a la tentation de diviser. Hein. Pourtant l'écologie est vraiment pas un sujet qui devrait diviser. On est tous d'accord, on veut tous un avenir meilleur pour nos enfants. Les problèmes on les connaît, raréfaction des ressources, effondrement du vivant, de la biodiversité, diversité, crise climatique. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus alors qu'on, pourtant en soi l'objectif il est commun à tout le monde. Et en fait c'est que l'objectif, il est fédérateur, mais ensuite, la manière dont ça se décline, en fait, ça se passe mal. Il y a des courants politiques, il y a des débats qui font que tout ça, en fait, les gens vont polariser et vont oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est de se mettre en action, d'avancer. Voilà. Donc, moi, j'insiste vraiment à une logique positive. Ça ne veut pas dire qu'on fait abstraction des problèmes. Le monde est compliqué. Mais essayons d'aller chercher des solutions sur le terrain et d'avancer ensemble.
Merci pour cette réponse sur la partie de l'adaptation. Il y avait un deuxième thème que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est celui de l'argent. Parce que je trouve que quand tu fais une proposition d'économiser 5 000 euros par an, ça permet de lier économie et écologie et ne pas de... confronter les deux. Oui. Tout à l'heure, quand on a parlé de la question de la frugalité, on a parlé du fait que c'était choisi. Et moi, j'aimerais apporter une réflexion et avoir ton avis dessus. À mes yeux, sur la question du rapport à l'argent, il y a une ligne de flottaison. Si on est au-dessus de la ligne, on a choisi la situation. Et si on est sous la ligne, là, pour le coup, on est vraiment dans le fait de subir les choses et ça peut être absolument insupportable. Et après, pour ce qui me concerne, j'ai 5 axes pour savoir de quoi je suis riche. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Le premier, c'est effectivement le rapport à l'argent et le rapport aux aspects matériels de manière plus générale. Le deuxième, c'est le rapport à la santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale. Le troisième, c'est le rapport à mes relations, la famille, le travail, les amis, et puis de manière plus générale, après, mes voisins. Ensuite, il y a le rapport au temps. Est-ce que je suis riche de mon temps ou est-ce que je passe mon temps à courir derrière? Et la dernière question, donc, est le fait de choisir ou de ne pas choisir ce que je suis en train de vivre. Est-ce que j'ai consenti à ça ou est-ce que je suis en train de vivre complètement à côté? Et après, je fais mes choix au regard de ces cinq grands éléments et de voir de quoi je suis riche. Et je trouve que ta question permet d'identifier ça, parce que finalement, elle permet de réagencer tout un tas d'utilisations de ressources sur mon premier volet, qui était le rapport à l'argent et le rapport au matériel, mais tout en développant plein d'autres. Le rapport à la santé, le rapport aux liens qu'on a par rapport aux autres, le fait que finalement, comme on va aller chercher des solutions, peut-être qu'on va trouver d'autres manières de vivre et de travailler, donc ça va être plus riche. Et donc voilà, je voulais avoir ton regard sur ça.
Alors, écoute, c'est intéressant parce que ta boîte à outils, en fait, c'est la définition objective du bonheur. Le bonheur, en fait, il ne faut pas avoir peur. C'est un mot, voilà. Encore une fois, il ne faut pas réserver ça aux publicitaires. On peut l'assumer. Et en fait, le bonheur, il y a des scientifiques qui ont travaillé dessus. Notamment, il y a une étude américaine très connue qui est faite sur plusieurs générations qui montre que, qui a interrogé, en fait, des gens sur des dizaines d'années, voilà, même 2 générations. Et en fait, ce qui ressort de cette étude, c'est que c'est la qualité des liens sociaux qui est déterminant pour le bonheur. Alors bien sûr, entendons-nous, il faut un minimum pour vivre, bien sûr. Si vous avez moins de 10 000 euros, allez, on va dire 10 000 euros de revenus par an, ça va être compliqué en France. Mais dès lors, et c'est le cas quand même de la majorité des Français, dès lors que vous êtes au-dessus de ce seuil, en fait, on s'aperçoit que le bonheur et l'argent ne sont pas corrélés. Encore une fois, je ne dis pas que l'argent n'est pas nécessaire, mais il faut un minimum, mais ça s'arrête là. Et après, et là, en fait, les pays nordiques nous apprennent beaucoup de choses, c'est que le bonheur, une fois qu'on a le minimum nécessaire, c'est la qualité des liens sociaux, c'est l'espérance de vie en bonne santé, c'est la confiance dans les institutions, c'est avoir l'impression de maîtriser le cours de sa vie, autrement dit, limiter les incertitudes. Et donc là, ça répond aussi à ce que tu disais. Tu disais, bah, pouvoir maîtriser son temps, pouvoir choisir. Et en fait, le bonheur, c'est tout ça. Donc, c'est d'avoir l'impression de ne pas subir, l'impression d'avoir le choix, d'avoir des liens sociaux de qualité et d'avoir confiance dans les institutions et confiance en autrui. En fait, si vous commencez à ne plus avoir confiance en autrui, en fait, vous vous isolez. Et on est dans une épidémie, d'ailleurs, de solitude. Il y a de la souffrance mentale justement parce que les gens se replient sur eux. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que ta boîte à outils en fait reprend ces éléments objectifs du bonheur tel qu'il est mesuré par les psychologues.
Et alors, est-ce que tu as une vision avec des ateliers des personnes que tu as pu voir plusieurs années après, voir ce que ça a pu changer chez eux?
Alors, j'ai pas fait d'études de psychologie poussée, mais par contre, déjà très concrètement, il y a plus de 50% des participants après un atelier qui adoptent des nouvelles pratiques. Donc voilà, ils en tirent quelque chose. De manière objective, on a interrogé les gens, ils notent les ateliers 8 sur 10, donc ils passent un bon moment, c'est un moment de convivialité et de partage. Encore plus convivial quand souvent, en fait, c'est combiné à un repas entre collègues, entre midi et 2h, et chacun apporte son plat maison, par exemple, ou un repas végétarien. Donc voilà des éléments objectifs. Et après, aussi, ce que les gens apprécient, c'est de découvrir des gens qui partagent les mêmes aspirations, les mêmes valeurs, et de s'apercevoir qu'ils ne sont pas seuls, notamment en entreprise. Quand vous faites un atelier éco-frugal en entreprise ou dans votre administration, bah, vous allez vous apercevoir que, en fait, y a un autre collègue qui est passionné de jardin, que vous allez pouvoir échanger des boutures, des graines, que vous allez pouvoir apprendre ensemble. Et en fait, ça participe en fait au bien-être, à l'estime de soi, et ça fait partie du bonheur.
C'est inspirant tout ça, et j'aimerais que tu puisses continuer à nous inspirer pour la dernière question, une question qui est une question surprise. Et donc, je vais t'inviter, Philippe, à fermer les yeux. Et là, tu es de passage à Marseille, mais tu es souvent de passage à Marseille, donc tu connais un petit peu cette ville. J'aimerais que tu te projettes en 2035, dans 10 ans. Et en 2035, nous avons gagné. Jean-Pierre Blanc, le mot « nous », c'est « tu », mais nous tous, on a gagné. Donc d'abord, j'aimerais que tu ressentes le sentiment d'avoir gagné. Savoir ce que ça te provoque. Et ensuite, j'aimerais que tu t'imagines ce que c'est que d'avoir gagné. Ça veut dire quoi, avoir gagné? À quoi ça ressemble Marseille en 2035? Quand tu es imprégné de tout ça, quand tu as ce sentiment qui est fort et que tu commences à avoir cette vision, tu vas prendre un vélo et puis tu vas te promener. Tu vas te promener là où tu vas aller. Tu vas te promener là où ça t'inspire, tu vas aller discuter avec des gens que tu as envie de parler, ceux avec qui peut-être tu n'avais jamais parlé jusque-là. Et puis tu vas t'imprégner de cette atmosphère. Et puis après, tu vas revenir. Tu vas revenir, on n'est pas en 2035, on est en 2025. Et tu vas nous présenter ce que ce petit exercice de projection t'a éveillé. Ce que t'as ressenti, qui t'a vu, avec qui t'as parlé, et puis ça ressemblait à quoi?
Alors écoute, c'était une ville avec beaucoup moins de voitures. Marseille ressemblait à une ville quasiment sans voiture et une ville pacifiée. Donc moins d'agressivité, ne serait-ce que parce que voilà, on sait que les conducteurs entre eux peuvent être assez agressifs. Et une ville douce et une ville pacifiée. Voilà, une ville où il fait bon vivre. Avec plus de végétation qu'aujourd'hui, alors qu'entre-temps, la température aura augmenté. Plus de végétation qu'aujourd'hui parce que bah, on a essayé d'anticiper en fait, ces hausses de température et de végétaliser au maximum. Et puis, bien sûr, il y avait des panneaux solaires partout. j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, ouais, c'est une ville où il fait bon vivre. Et malgré un signe d'espoir, malgré le réchauffement climatique, d'ici là, 2035, ce sera peut-être encore 1,5 degré en plus, on ne sait pas. Cette ville est plus agréable à vivre demain, en ayant pris des mesures pour vrai contre le réchauffement climatique et en favorisant la biodiversité, plus agréable à vivre demain qu'aujourd'hui. Donc c'est un message d'optimisme que je renvoie.
Et ben merci beaucoup. Et alors pour rendre cette ville possible, à défaut d'en faire une forêt, petit clin d'œil à ce que nous faisons nous-mêmes. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les aspects très pratico-pratiques, celles et ceux qui ont envie de se procurer le guide ou qui ont envie de pouvoir faire l'atelier? Il te reste une ou deux minutes.
Alors, c'est très simple. Là, c'est l'avantage d'Internet. Pour nous, le numérique, ça permet de prolonger. Ça, c'est utile comme boîte à outils. Donc, vous allez sur monatelier-ecofrugal.fr. Vous inscrivez, vous allez rejoindre la communauté. Avec le statut ambassadeur, ambassadrice, vous avez accès à tout équipe d'animation en source ouverte, calculateur carbone. Vous pouvez créer votre atelier, mais créer aussi n'importe quel événement en rapport avec la transition écologique. Et donc ça, c'est France entière. Et on envoie des box d'animation pour certaines thématiques, le zéro déchet, l'alimentation ou la thématique copro-habitat. Pour les autres thématiques, vous téléchargez directement le kit en ligne et vous êtes autonome. Donc c'est très simple, voilà. Donc aujourd'hui, on a des membres France entière. Sur Marseille, Marseille et les environs, on doit être une centaine. Et donc l'idée du site, c'est que c'est vraiment dans la logique de la forêt des possibles, c'est d'apercevoir qu'on n'est pas seul, qu'il y a des voisins qui partagent des valeurs similaires et de les contacter grâce au réseau amical qu'on a créé et de faire des choses ensemble. Donc voilà. Et par rapport au livre, eh bien ça tombe à point parce que j'étais cet après-midi sur le bouclage du livre. Je vais sortir un nouveau livre qui sortira en septembre et donc je vais faire une campagne de financement participatif que je vais lancer probablement d'ici 3 semaines. Donc on pourra précommander le livre. Il sera autour de 18 euros plus peut-être 5 euros de frais de port. Et l'idée c'est que vous puissiez recevoir le livre en début septembre, voilà, en avant-première.
Et donc le livre, c'est une nouvelle édition du Guide Écofrugal ou c'est un livre complètement différent ?
Alors c'est une nouvelle édition, mais une édition enrichie, actualisée, en disant il y a énormément de solutions qui ont évolué. Ça sera aussi un retour en arrière pour voir un peu, donner un petit peu, faire un aperçu de ce qui a pu s'améliorer. Et puis aussi énormément de solutions pour agir en entreprise. Également, je vais ouvrir sur tous les outils d'intelligence collective qui existent aujourd'hui, comme les fresques, Inventons nos vies bas carbone, les collectifs, autant d'outils qui n'existaient pas il y a 10 ans. Et donc, en fait, le livre, ça va.
La forêt des possibles, peut-être.
Et la forêt des possibles, bien sûr. Et donc, l'idée, c'est que quand on a ce livre, on a des solutions pour agir chez soi, en entreprise, dans sa collectivité, à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective, grâce à des outils qui sont soit gratuits, soit très peu chers. Et pourquoi ? Parce qu'en France, on a une richesse incroyable. Hein, et j'ai essayé de voir ce qui se passait à l'étranger, mais toute cette effervescence, comme la forêt des possibles, les fresques et tout, c'est assez spectaculaire de voir à quel point en France, ça s'est développé au cours des 10 dernières années. Et j'ai envie de le faire connaître au public.
Philippe, merci beaucoup. On aurait pu en parler pendant encore des heures, je pense qu'on aurait pu creuser presque tous les sujets, surtout qu'à t'écouter, c'est un véritable plaisir. Donc, tu as donné toutes les informations pour trouver le guide et les ateliers Écofrugal. Bonne soirée, merci Elissa d'avoir été en studio avec nous, merci à Félix d'avoir fait la régie, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Alice Johannest, et on va parler d'écoféminisme. Bonne soirée.
Belle soirée.
Bonne soirée tout le monde.
Merci, au revoir.